Priez. Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur, tu es le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Gloire à ton Saint-Nom. Nous te saluons au milieu de nous par ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Et tu agis, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ce si grand salut, pour le pardon des péchés par ton sang précieux. Merci pour le don du Saint-Esprit, comme une force en nous et comme un guide sûr sur notre voyage ici-bas. Nous plaçons cette soirée sous ton regard. Glorifie ton nom au milieu de nous. Bénis notre frère, voilà de ton Saint-Esprit, et bénis chacun de nous ici présents, que nous puissions recevoir dont nous avons besoin pour aller plus loin avec joie. Ô gloire à ton Saint-Nom, louange à toi car tu es le victorieux. Béni sois-tu Père Céleste pour le don précieux de Jésus notre Sauveur. Amen.
Restons encore dans la présence du Seigneur. Alors je crois qu'il nous faut encore chanter quelques petits chœurs d'adoration. Un que vous connaissez certainement tous, « Gloire à ton nom, Seigneur Jésus ». Nous sommes ici pour glorifier notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas vrai? Et nous voulons le faire de tout notre cœur et de tout notre être. Chantons encore ce chœur merveilleux, « Gloire à ton nom, Seigneur Jésus ».
Gloire à ton nom, Jésus.
T'exalter car tu en es digne. N'es-tu point l'agneau de Dieu qui a donné ta vie pour nous? N'as-tu point souffert pour le pardon de nos péchés et pour nous donner la vie éternelle et nous délivrer de la main de l'oppresseur et faire de nous un peuple qui t'appartienne? Tu l'as fait à cause de tes souffrances sur la croix et à cause du sang précieux qui a coulé. Désormais, nous t'appartenons et nous voulons glorifier ton nom. Ô Seigneur, à toi notre amour et notre hommage ce soir. Ce soir encore, nous voulons entendre ta voix, nous rapprocher de toi. Seigneur, tu veux nous faire du bien. Que ta parole pénètre dans le fond de notre cœur. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que tu veux nous dire. Et trouve en nous des cœurs dociles et obéissants. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oins-nous tous de ton esprit de vérité, de ton esprit de sagesse, et que nous puissions ainsi comprendre ce que tu veux nous dire et obéir joyeusement à ta voix. Merci, Seigneur, nous comptons sur toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je ne peux rien faire, Seigneur, sans l'assistance et le secours du Saint-Esprit. Mais merci parce que tu es fidèle. Tu viens à notre secours. De tout notre cœur, nous t'adorons. Notre Père céleste, en Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Maître. Amen. Alléluia. Gloire à son beau nom. Il connaît les besoins de chacun. N'est-il pas le Père céleste? Et ne sommes-nous pas ses enfants? À cause de cela, il veut parler à ses enfants et leur faire du bien. Et le premier qui est le plus attentif à sa voix, c'est moi-même, car je désire aussi être enseigné par lui. Nous ne sommes pas ici comme un supérieur qui parle à des inférieurs. Il n'y en a qu'un qui est grand au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus. Et nous sommes tous ses enfants. C'est pourquoi nous voulons nous attendre à lui ce soir encore. Gloire à son nom. Si nous nous attendons à quelque chose, il fera quelque chose. Samedi soir et dimanche après-midi, nous prendrons tout spécialement du temps pour prier pour les malades. Je sais que plusieurs ont demandé cela. Alors nous prendrons tout spécialement du temps pour prier samedi soir. Il y aura un message, bien sûr. Mais après le message, samedi soir, nous prierons pour les malades. Et dimanche après-midi aussi, pour la dernière réunion, après le message, il y aura aussi la prière pour les malades et pour tous ceux qui le désirent. Ainsi, préparons nos cœurs pour que le Seigneur agisse. Je m'attends à ce qu'il agisse et il le fera certainement. Et plus nous nous attendons à ce qu'il agisse, plus il agira au milieu de nous, car il est fait selon notre foi. Si nous n'attendons rien, il se fasse rien.
Certains sont même pas déçus quand il se passe rien. Tu sais ce que j'attendais. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'il se passe rien, je ne suis pas déçu. Mais on devrait être déçu quand il ne se passe rien. Tiens, il ne s'est rien passé, il y a quelque chose qui ne va pas. Malheureusement, nous, on est tellement habitué à ce qu'il ne se passe rien, on dit tiens, c'est normal. Et quand il se passe quelque chose, on dit tiens, c'est anormal qu'il se passe quelque chose. C'est anormal que Jésus guérisse un malade, c'est anormal. Non, c'est presque anormal. C'est normal que Dieu agisse. Et c'est anormal qu'il n'agisse pas au milieu de nous. C'est pourquoi nous devons nous attendre à ce qu'il fasse son œuvre, et toujours de plus en plus, n'est-ce pas vrai? Ce soir, j'aimerais vous parler sur le secret d'une vie abondante. Sur les prospectus, vous avez ce verset, les prospectus donc concernant cette mission. Nous avons ce verset qui se trouve dans Jean chapitre 10, verset 10. C'est un verset facile à retenir. Jean 10, 10. C'est comme ça que je retiens un peu les versets aussi. Jean 10, 10. 1 Jean 4, 4. Romains 5, 5. Jean chapitre 10, verset 10. Nous allons relire ce verset et quelques autres versets qui vont avec ce passage-là. Et nous allons découvrir le secret d'une vie abondante. Jean chapitre 10, à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Soulignez bien étranger. Étranger, nous allons y revenir. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Soulignez bien ces deux expressions, voleur et brigand. Tout à l'heure, nous avons vu un étranger, maintenant nous voyons voleur et brigand. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Soulignez bien, berger cette fois, berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, soulignez bien, mercenaire, mercenaire. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Que le Seigneur bénisse et inspire sa parole pour chacun d'entre nous. Comment expérimenter une vie abondante? C'est la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pour expérimenter cette vie abondante, il faut manifester le caractère du bon berger. Et avant de vous parler du caractère du bon berger qui nous donnera la définition d'une vie abondante, j'ai souligné tout à l'heure avec vous plusieurs personnages. Et ce passage nous donne en tout cas quatre personnages qui révèlent quatre façons de vivre, quatre styles de vivre. On pourrait dire les quatre styles de vie du chrétien. Mais il n'y a qu'un style de vie qui est valable et qui nous conduit dans une vie abondante. Ce qui fait que nous allons tous être concernés ce soir par ces quatre styles de vie. Nous allons voir que les trois premiers styles de vie sont une façon de vivre, mais qui ne glorifie pas toujours le Seigneur et qui ne débouche certainement pas sur une vie abondante. On vit, on dirait plutôt, on vivote, mais ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour nous. Avez-vous faim et soif d'une vie abondante? Vous auriez pu dire alléluia, si vous êtes d'accord. Car le Seigneur offre cette vie à ceux qui le désirent. Entrons donc directement dans le vif du sujet. Et pour être clair dans ce que je vais dire, afin de bien définir ces différents personnages et leur style de vie, nous allons utiliser deux verbes que l'on retrouve dans les Écritures, spécialement dans les Évangiles. Ces deux verbes sont le verbe donner et le verbe recevoir. Et à l'aide de ces deux verbes, donner et recevoir, nous allons définir ces quatre styles de vie. Commençons par le premier personnage qui est nommé comme étranger, un étranger. Vous avez certainement été dans un pays étranger où l'on ne parle pas votre langue et c'est quelque chose d'assez pénible quand on se trouve comme un étranger au milieu des étrangers. Il n'y a pas moyen de dialoguer, d'avoir le contact. Alors il y a comme une souffrance intérieure. Voilà donc comment on pourrait définir le style de vie de l'étranger. En utilisant ces deux verbes, c'est un homme qui ne donne ni ne veut rien recevoir de personne. Voyez-vous, il ne donne pas et il ne reçoit rien de personne. Il vit comme un étranger. Et parce qu'il vit comme un étranger, c'est une étrange personne qui a des attitudes étranges. Et il y a des chrétiens qui vivent comme des étrangers, et qui s'étonnent de ce que les autres personnes agissent comme des étrangers à son égard. Ce sont ceux qui se contentent tout simplement de leur salut et qui disent « Moi maintenant, je suis sauvé. J'ai l'assurance de mon salut. C'est une bonne chose, c'est une grande chose. Mais le but de Dieu n'est pas seulement que nous soyons sauvés, mais il veut que nous utilisions aussi sur cette terre pour amener le salut et la bénédiction aux autres. Alléluia. Le mot abondance J'allais le dire plus tard, mais il faut que je le dise maintenant, je ne peux plus attendre. Le mot abondant, quand Jésus dit « Je suis amené la vie » et la vie en abondance. Le mot abondant, dans le texte grec, veut dire « une vie au-dessus de la normale ». Autrement dit, il veut nous dire « Je vous ai apporté la vie, bon, la vie éternelle, le salut, le pardon de vos péchés, mais je viens avec beaucoup plus. Je ne veux pas seulement pour te sauver toi-même, mais je viens aussi pour que par ton moyen, d'autres aussi puissent entrer dans le salut de Dieu et dans la bénédiction du Seigneur. » Voilà la définition de la vie abondante. C'est avoir une vie, non seulement avoir une vie soi-même, la vie spirituelle soi-même, le salut soi-même, mais être en bénédiction aux autres. Et tant que notre vie n'est pas en bénédiction aux autres, nous ne vivons pas cette vie abondante dont Jésus parle. Et si nous ne l'avons pas, c'est peut-être parce que nous avons un style de vie qui n'est pas ce que lui est venu amener comme style de vie. Alors le premier style de vie, c'est le style de l'étranger. Style de vie de l'étranger. Moi, je suis sauvé. Cela me suffit. Ils ont peut-être des trésors en eux, mais ils ne veulent pas les donner. Les autres ont peut-être des trésors à leur donner, mais ils ne veulent pas les recevoir. Ce sont des gens qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Satisfaits. Mais voyons, je suis sauvé. N'est-ce pas suffisant? Ils sont satisfaits d'eux-mêmes, mais le Seigneur n'est pas satisfait d'eux. Et laissez-moi vous dire une chose, si Dieu n'est pas satisfait de vous, alors vous ne pouvez pas être satisfait. C'est pourquoi le Seigneur parfois nous bouscule dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas vrai? Il permet certaines épreuves, il permet certaines difficultés, il permet certaines choses qui nous dérangent un petit peu, afin que nous sortions de notre torpeur et de notre tiédeur spirituelle, afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Un premier style de vie, on ne veut rien donner, on pense aussi qu'on n'a rien à donner aussi. Quel mensonge! Si quelqu'un a Christ dans sa vie, il a le plus grand trésor à communiquer aux autres, n'est-ce pas vrai? Personne ne peut dire s'il a Christ dans sa vie qu'il n'a rien à donner. Il n'est pas question de donner aux autres des beaux discours. Il y en a qui pensent que parce qu'ils ne peuvent pas faire des beaux discours, ils n'ont rien à dire. C'est là une très grande erreur. Et beaucoup pensent que parce qu'ils ne sont pas prédicateurs ou missionnaires, alors ils ne peuvent absolument rien faire pour le Seigneur. C'est une très grave erreur. Chacun d'entre nous, si nous avons Christ, alors nous avons quelque chose de merveilleux à communiquer aux autres, n'est-ce pas vrai? Mais si nous voulons expérimenter la vie abondante, il nous faut cesser ce style de vie. Cesser de dire, moi, j'ai mon salut, cela me suffit. Une telle attitude déshonore Dieu et vous empêche d'expérimenter les grâces de Dieu et la puissance de Dieu dans votre vie. Et en général, vous le remarquez, ces personnes-là qui ne veulent ni donner ni recevoir, ce sont des personnes qui sont esclaves de la solitude. Et un peu plus, quand nous avons lu, il est dit, elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui. Avez-vous remarqué, on fuit loin d'un étranger? C'est pourquoi votre contact, votre présence fait fuir les gens. C'est terrible! Alors que notre présence devrait plutôt attirer les gens au Seigneur, il y a des chrétiens qui font fuir les gens. C'est vraiment une contradiction, n'est-ce pas vrai? C'est une contradiction. Comment cela se fait-il qu'on ait en nous quelque chose qui attire et que finalement, on ait une attitude qui repousse et qui fait fuir? Et ces personnes sont désespérément seules. Vous savez, quand vous ne voulez ni donner ni recevoir, alors il y a quelque chose qui se passe. Vous vivez dans une solitude terrible. Et c'est un des problèmes de notre génération. Et un des problèmes de beaucoup de chrétiens, la solitude. La solitude. La solitude est un mal terrible qui ronge des milliers d'individus et des chrétiens aussi. Nous ne sommes pas créés pour vivre dans la solitude, mais pour vivre dans la communion avec Dieu et dans la communion avec notre frère et notre prochain. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire, moi, je veux être quelqu'un de tranquille. Je ne veux pas faire de mal à personne. Qu'on me laisse tranquille, hein, c'est tout. Voilà, c'est le style de vie de beaucoup. Moi, je ne fais de mal.
mal à personne. Je ne demande rien à personne. N'est-ce pas une vie exemplaire? Mais il y en a qui pensent qu'en vivant comme cela, ils vivent une vie exemplaire. Tu es loin de vivre une vie exemplaire. La solitude, est-ce vraiment une vie exemplaire? Est-ce vraiment la volonté de Dieu pour toi? Ce n'est point là la pensée de Dieu. Étranger. On vit comme un étranger. On est étranger partout, on n'est jamais à sa place partout. N'est-ce pas vrai? C'est terrible. Partout où on va, on se sent pas bien, on se sent comme un étranger. Les gens fuient. Pourquoi? Parce qu'on fuit les gens. Avez-vous remarqué cela? Pourquoi est-ce que certaines personnes vous fuient? Parce que vous les fuyez. Vous dites, mais pourquoi est-ce que ces gens ne m'aiment pas? Parce que toi, tu les aimes pas. Pourquoi est-ce que telle personne me fait la tête? Parce que tu lui fais la tête. Mais bien souvent, on s'en rend pas compte. C'est presque inconscient, c'est un style de vie qui est là. On dit, mais pourquoi cette personne ne s'approche-t-elle pas de moi? Parce que tu ne t'approches pas d'elle. Pourquoi est-ce que tu es seul? Parce que tu laisses l'autre dans sa solitude. Voyez-vous, ce style de vie est malheureusement beaucoup répandu parmi les chrétiens. On pense être quelqu'un de bien en disant, moi je ne fais de mal à personne, je donne rien à personne, je reçois rien de personne. Ouh, mais une telle vie, certainement, c'est une vie merveilleuse. Loin de là. C'est le style de vie d'un étranger qui fait fuir plutôt les gens que de les attirer au Seigneur. Il ne veut rien donner et rien recevoir. Abandonnant ce style de vie. Malheureusement, il existe trop dans ce monde, mais le chrétien, lui, ne peut pas adopter une telle façon de vivre. Voyons maintenant notre deuxième personnage. J'ai noté ici le personnage du mercenaire. Alors, faisons une petite phrase avec donner et recevoir. Qu'est-ce qu'on va trouver avec lui? Alors, le mercenaire, c'est un peu un spécial aussi. Lui, il donne à condition de recevoir, voyez-vous? C'est en somme le chrétien qui a toujours une règle à calculer dans sa poche. Il est fort en maths, celui-là. Il est fort en maths. Le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit le loup venir, abandonne les brebis et prend la fuite. Le mercenaire, c'est donc quelqu'un qui est payé pour faire quelque chose. Alors, tant que tout va bien, le mercenaire a l'air d'être quelqu'un de formidable. Mais qu'est-ce qui révèle la véritable personnalité du mercenaire? C'est le loup. C'est quand le loup arrive qu'on voit qui est ce mercenaire. Parce qu'apparemment, il est gentil, vous savez, quand vous voyez le mercenaire de loin, que vous voyez le mercenaire ou le berger, c'est exactement la même chose.
Il est là avec ses brebis, autour de ses brebis. Mais oui. Mais t'es formidable, toi.
Alors, il discute tout. Il est bien, bien gentil. Tout est bien, aucun problème. Tu veux que je te rende un service? Mais bien sûr, je te veux. Mais alors, pour qui tu me prends? Je suis quand même pas un païen. Mais bien sûr, je vais te rendre ce service. Mais oui. Tu peux me faire aussi? Mais bien sûr. Mais tu sais, oh là là, mais tu me connais pas. J'irais même me sacrifier pour toi. Vous savez, il y a un bon langage, un très beau langage. Oh là là, mais tu sais, j'irais loin pour toi. Mais oui. Tu penses bien que je ne vais pas t'abandonner comme ça. Voyons. Et alors qu'il parle, tout à coup, il voit deux oreilles pointues à l'oreille du bois. Excuse-moi. Je transpire un petit peu. Oui, je t'avais dit que je t'aimais. C'est sûr que je t'aime beaucoup. C'est certain, certes. Mais, tu sais, excuse-moi, je dois rentrer. On vient de me téléphoner. Je dois rentrer. J'ai un appel urgent à la maison. Et puis, pourquoi? Parce que le loup arrive. Le mercenaire est quelqu'un qui est foncièrement égoïste. Il rend des services, il peut faire apparemment beaucoup de bien. Mais finalement, c'est quelqu'un qui se sert lui-même. Il ne sert jamais les brebis, il se sert des brebis. Il ne sert jamais le berger, il se sert du bon berger. Et c'est la difficulté, c'est l'épreuve, c'est le loup qui révèle sa véritable personnalité. Voilà pourquoi, mes chers amis, bien souvent, Dieu doit nous faire passer par les épreuves. Il doit nous montrer un peu les deux oreilles du loup par là. On dit, mais Seigneur, c'est pas possible! Chasse-le, Non, c'est pas lui que je vais chasser. Oui, après, on pourra le chasser après. Mais avant de chasser le loup, je veux d'abord chasser quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi qui me déplaît. Mais c'est ce loup qui va révéler un peu qui tu es. Voyez-vous, si nous savons prendre les choses du bon côté, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Vous auriez pu dire alléluia, là. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. C'est vrai. Si nous savons voir la chose du bon côté. Moi, c'est un passage qui m'a toujours frappé. Vous savez, quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, dans Matthieu chapitre 4, il dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Alors là, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et après la tentation, il y a une expression merveilleuse dans l'évangile qui dit « Jésus revêtu du Saint-Esprit ». Il est entré dans le désert rempli du Saint-Esprit, il en est ressorti revêtu. Et qui est-ce qui lui a donné un coup de main pour cela? C'est le diable. Jésus a utilisé les tentations du diable pour lui résister. Non pas pour fuir, mais pour lui résister. Pour lui opposer la parole de Dieu. Pour tenir ferme et pour lui dire, il est écrit, il est aussi écrit. Et c'est ainsi que, en tenant ferme, en révélant exactement qui il était, eh bien, après l'épreuve, il en est sorti plus fort qu'avant. Et c'est le but de l'épreuve. D'ailleurs, le mot épreuve aussi, dans le texte grec, a cette pensée-là. Dieu nous éprouve pour nous purifier et pour nous fortifier. Il y a deux pensées quand Dieu nous éprouve. Deux pensées. Dieu nous éprouve pour nous purifier et Dieu nous éprouve pour nous fortifier. C'est extraordinaire quand on pense à cela. Et même le diable peut finalement être un instrument dans la main de Dieu. Si, attention, si nous avons la bonne réaction. Si nous n'avons pas la bonne réaction, alors l'ennemi en profite. Il nous fait fuir et c'est l'ennemi qui a la victoire. Voyons donc ce deuxième style de vie. Il donne à condition de recevoir. C'est donc quelqu'un qui, finalement, fait tout par intérêt. C'est un ministre des intérêts personnels. Il y a beaucoup de ministres des intérêts personnels. Il ne pense qu'à lui. Dans tout ce qu'il fait, il dit... Oui, mais attends, oui, d'accord, tu veux que je fasse quelque chose, oui, d'accord, mais attends, d'abord, moi, où j'en suis, là, derrière, où je suis, là? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, attention. Oui, attends, doucement. Mais moi, où est-ce que tu m'as mis, là-dedans? Est-ce que j'y suis ou pas? Voyez-vous, tout est fait par rapport à lui. Un jour, j'ai lu cette histoire, où c'est plutôt un prédicateur qui l'a raconté, et qui a dit que, au sujet d'un missionnaire en Afrique, il faisait lui-même sa circulaire. Et alors, un jour, il avait tellement de choses à dire. Alors, dans sa circulaire, il mettait... Il y a une expression qui revenait souvent. Je. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et à un moment donné, il y avait tellement de je qu'il n'avait plus assez de lettres. Dans son imprimerie, le je avait disparu, il n'y avait plus assez de je. C'est ce qui fait qu'il est tombé en panne, il n'a pas pu écrire sa circulaire. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout à cause du « je ». « Je ceci, je cela, je ceci ». Ce n'était pas un missionnaire, c'était un mercenaire. Je sais que c'est difficile à dire. Très difficile à avaler. On peut être missionnaire, mais finalement être un mercenaire. On peut être un chrétien, mais finalement, dans le fond de son cœur, avoir cette mentalité d'un mercenaire. Et c'est cette attitude-là qui... produit toutes les difficultés que nous connaissons dans les églises, n'est-ce pas vrai? Et dans notre propre vie aussi. À un moment donné, il doit y avoir un changement de style de vie. Le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit le loup venir, abandonne les brebis et prend la fuite. Le mercenaire, c'est donc quelqu'un qui est payé pour faire quelque chose. Alors, tant que tout va bien... Le mercenaire a l'air d'être quelqu'un de formidable. Mais qu'est-ce qui révèle
la véritable personnalité du mercenaire, c'est le loup. C'est quand le loup arrive qu'on voit qui est ce mercenaire. Parce qu'apparemment, il est gentil, vous savez, quand vous voyez le mercenaire de loin, que vous voyez le mercenaire ou le berger, c'est exactement la même chose.
Il est là avec ses brebis, autour de ses brebis. Mais oui. Mais t'es formidable, toi.
Alors, il discute tout, il est bien, bien gentil. Tout est bien, aucun problème. Tu veux que je te rende un service?
Mais bien sûr, je te veux. Mais alors, pour qui tu me prends, je suis quand même pas un païen. Mais bien sûr, je vais te rendre ce service, mais oui.
Tu peux me faire aussi...
Mais bien sûr. Mais tu sais, mais tu me connais pas. J'irais même me sacrifier pour toi. Vous savez, il y a un beau langage, un très beau langage. Mais tu sais, j'irais loin pour toi. Mais oui. Tu penses bien que je veux pas t'abandonner comme ça. Voyons.
Et alors qu'il parle, tout à coup, il voit deux oreilles pointues à l'oreille du bois. Excuse-moi. Je transpire un petit peu. Oui, je t'avais dit que je t'aimais. C'est sûr que je t'aime beaucoup. Voyons. C'est certain, certes. Mais, tu sais, excuse-moi, je dois rentrer. On vient de me téléphoner. Je dois rentrer. J'ai un appel urgent à la maison.
Et puis, pourquoi? Parce que le loup arrive.
Le mercenaire est quelqu'un qui est foncièrement égoïste. Il rend des services, il peut faire apparemment beaucoup de bien, mais finalement, c'est quelqu'un qui se sert lui-même. Il ne sert jamais les brebis, il se sert des brebis. Il ne sert jamais le berger, il se sert du bon berger. Et c'est la difficulté, c'est l'épreuve, c'est le loup qui révèle sa véritable personnalité. Voilà pourquoi, mes chers amis, bien souvent, Dieu doit nous faire passer par les épreuves. Il doit nous montrer un peu les deux oreilles du loup par là. On dit, mais Seigneur, c'est pas possible! Chasse-le, ce loup!
Non, c'est pas lui que je vais chasser.
Oui, après, on pourra le chasser après. Mais avant de chasser le loup, je vais d'abord chasser quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi qui me déplaît. Et c'est ce loup qui va révéler un peu qui tu es. Voyez-vous, si nous savons prendre les choses du bon côté, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Vous auriez pu dire Alléluia, là. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. C'est vrai. Si nous savons voir la chose du bon côté. Moi, c'est un passage qui m'a toujours frappé. Vous savez, quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, dans Matthieu chapitre 4, il est dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Alors là, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et après la tentation, il y a une expression merveilleuse dans l'évangile qui dit « Jésus revêtu du Saint-Esprit ». Il est entré dans le désert rempli du Saint-Esprit, il en est ressorti revêtu. Et qui est-ce qui lui a donné un coup de main pour cela? C'est le diable. Jésus a utilisé les tentations du diable pour lui résister. Non pas pour fuir, mais pour lui résister. Pour lui opposer la parole de Dieu. Pour tenir ferme et pour lui dire, il est écrit, il est aussi écrit. Et c'est ainsi que, en tenant ferme, en révélant exactement qui il était, eh bien, après l'épreuve, il en est sorti plus fort qu'avant. Et c'est le but de l'épreuve. D'ailleurs, le mot épreuve aussi, dans le texte grec, a cette pensée-là. Dieu nous éprouve pour nous purifier et pour nous fortifier. Il y a deux pensées quand Dieu nous éprouve. Deux pensées. Dieu nous éprouve pour nous purifier et Dieu nous éprouve pour nous fortifier. C'est extraordinaire quand on pense à cela. Et même le diable peut finalement être un instrument dans la main de Dieu. Si, attention, si nous avons la bonne réaction. Si nous n'avons pas la bonne réaction, alors l'ennemi en profite. Il nous fait fuir et c'est l'ennemi qui a la victoire. Voyons donc ce deuxième style de vie. Il donne à condition de recevoir. C'est donc quelqu'un qui, finalement, fait tout par intérêt. C'est un ministre des intérêts personnels. Il y a beaucoup de ministres des intérêts personnels. Il ne pense qu'à lui. Dans tout ce qu'il fait, il dit... Ah, oui, mais attends, oui, d'accord, tu veux que je fasse quelque chose, oui, d'accord, mais attends, d'abord, moi, où j'en suis, là, où je suis, là? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Attention. Oui, attends, doucement. Mais moi, où est-ce que tu m'as mis, là-dedans? Est-ce que j'y suis ou pas? Voyez-vous, tout est fait par rapport à lui. Un jour, j'ai lu cette histoire, ou c'est plutôt un prédicateur qui l'a raconté, et qui a dit que, au sujet d'un missionnaire en Afrique, il faisait lui-même sa circulaire. Et alors, un jour, il avait tellement de choses à dire. Alors, dans sa circulaire, il mettait... Il y a une expression qui revenait souvent. Je. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et à un moment donné, il y avait tellement de je qu'il n'avait plus assez de lettres. Dans son imprimerie, le je avait disparu, il n'y avait plus assez de je. C'est ce qui fait qu'il est tombé en panne, il n'a pas pu écrire sa circulaire. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout à cause du jeu. Je ceci, je cela, je ceci. C'était pas un missionnaire, c'était un mercenaire. Je sais que c'est difficile à dire. Très difficile à avaler. On peut être missionnaire, mais finalement être un mercenaire. On peut être un chrétien, mais finalement, dans le fond de son cœur, avoir cette mentalité d'un mercenaire. Et c'est cette attitude-là qui... produit toutes les difficultés que nous connaissons dans les églises, n'est-ce pas vrai? Et dans notre propre vie aussi. À un moment donné, il doit y avoir un changement de style de vie. Si vous vivez uniquement pour donner en vue de recevoir, alors la vie abondante ne sera jamais ouverte devant vous. C'est impossible. Car la vie abondante que Dieu nous donne n'est pas pour nous-mêmes, mais... pour les autres. Alléluia. Un jour, quelqu'un demandait le baptême dans le Saint-Esprit. Ah, il demandait la puissance à Dieu.
Il n'avait jamais rien du tout.
Et un jour, alors qu'il priait, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, mais pour qui demandes-tu cette puissance? Pour qui? Alors, cette question l'a troublé. Il a dit, mais Seigneur, je veux la puissance. Pour moi, Seigneur. Pour que je sois un chrétien fort. Et le Seigneur lui a montré que tant que tu demandes cette puissance pour toi-même, eh bien, la puissance de Dieu ne se manifestera jamais dans ta vie. La puissance que j'accorde n'est pas pour toi. C'est pour toi, bien sûr. Mais en vue de la communiquer aux autres. Et quand il a compris cela, il s'est humilié devant Dieu, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été vraiment un égoïste. Je te demande non plus cette puissance pour moi-même, mais pour les autres. Et instantanément, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Un des obstacles majeurs à la bénédiction de Dieu dans beaucoup de vies, c'est notre égoïsme. Il nous faut détruire ce géant. Il nous faut aller à la racine. Je sais qu'il essaye de revenir toujours à la surface, mais il nous faut une fois pour toutes dire, eh bien, désormais, je ne veux plus vivre pour moi-même. Ce que je demande, je ne le demande pas pour moi, mais pour toi, Seigneur. Jean-Baptiste avait compris quelque chose quand il disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Il faut que le Seigneur soit tout et que nous ne soyons rien du tout. Rien pour moi, Seigneur, mais tout pour toi. Voilà des paroles qui doivent pénétrer dans le fond de notre cœur. Mais cessons de faire tout ce marchandage avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, on est des véritables commerçants. Des marchandeurs. On sait bien marchander. Je te donne, Seigneur, mais si tu me donnes. Si tu me donnes plus, je te donne plus. Si tu me bénis, je te bénis. C'est un style de vie qui est fréquent aussi, malheureusement. Mais vous réalisez une chose, c'est que plus on donne à quelqu'un qui est égoïste, plus cette personne est insatisfaite. Avez-vous remarqué cela? Plus une personne est égoïste, et plus vous donnez à une personne égoïste, plus elle sera insatisfaite. C'est pourquoi ce n'est pas le chemin de Dieu. C'est pourquoi, même avec toutes les bénédictions que nous recevons, le lendemain déjà, nous avons oublié nos bénédictions.
Le lendemain, déjà, nous commençons à rouspéter. Le lendemain, nous commençons... C'est que de la manne, c'est que de la manne. C'est que de la manne, voyons. Ouais. Oui, c'est bien, mais... Dieu nous guérit. Dieu guérit quelqu'un. Oh, oui, oui, bon, oui. Je sais pas si ça va durer. Quelqu'un se convertit. N'allons pas si vite. Il y a beaucoup de rétrogrades actuellement. Moi, j'attendrai. Moi, je suis prudent. On n'apprécie rien du tout. Les bénédictions que Dieu donne, on ne les apprécie même plus.
Pourquoi ? Parce que nous sommes foncièrement égoïstes.
Et Dieu voit que ça ne peut pas durer ainsi. Parce que ce sont les égoïstes qui rouspètent le plus. Et quand vous faites les quatre volontés de ces personnes-là, elles ne savent encore pas. Mais qu'est-ce que tu veux, finalement ? Eh bien, je ne sais pas ce que je veux. Ce sont des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, abandonnons ce style de vie. Il donne à condition de recevoir. Cessons tous ces marchandages. Troisième personnage, maintenant. Le troisième personnage, il a un style de vie encore particulier. C'est le brigand ou le voleur. Je les mets tous les deux dans le même sac, c'est à peu près la même chose. Un voleur ou un brigand, c'est à peu près la même chose. Alors, que fait un voleur et que fait un brigand? Quel est son style de vie? Avec nos deux verbes encore. Qu'est-ce que vous pouvez trouver? Vous pouvez peut-être trouver quelque chose de mieux que moi, mais voilà ce que j'ai trouvé. Je vous donne ma découverte. Un voleur ou un brigand, il reçoit le bien et en retour, il vous donne le mal. Parce que lorsqu'un voleur vient chez vous, vous pensez bien qu'il ne va pas ramasser la poussière. Il ne va pas s'en aller avec le paquet de poussière qui se trouve dans la...
Comment on appelle ça ?
L'aspirateur ou la poubelle. Il ne va pas partir avec ça. Mais il va partir avec quoi ? Avec les plus belles choses que vous avez. Il ne va pas s'en aller avec le paquet de poussière qui se trouve dans la...
Comment on appelle ça ?
L'aspirateur ou la poubelle. Il ne va pas partir avec ça. Mais il va partir avec quoi? Avec les plus belles choses que vous avez. Et en retour, qu'est-ce qu'il vous laisse? Les vitres cassées, la porte brisée, tout par terre dans la maison. Il prend le bien, il reçoit le bien et il donne le mal. Il y en a beaucoup de brigands aujourd'hui. Il y a beaucoup de voleurs aujourd'hui. C'est un style de vie, il y en a qui vivent uniquement comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Grenoble, et un homme a rendu son témoignage, c'était un ancien gangster. Il a fait des hold-up, puis il a été dans un cachot, à combien de mètres sous le sol. Il est resté 45 jours complètement enfermé. Et son style de vie était celui-ci. Il disait que lui, naturellement, il ne vivait que pour l'argent. Et il recevait l'argent uniquement en menaçant les gens. Vous voyez, il prenait l'argent des gens, mais en les menaçant. Au lieu de les bénir, ces gens, qui lui donnaient de l'argent, il, encore en partie sur le marché, il leur faisait du mal. Savez-vous qu'il y a des personnes, et même des chrétiens comme cela, ils reçoivent le bien, vous leur faites du bien, et par derrière, ils rouspètent toujours. Ils ne sont pas satisfaits. Ils vous critiquent même, parce que ce que vous avez donné n'est pas suffisant. C'est même pas bien. Alors ils murmurent. Il y a de l'amertume, il y a de la rancune, il y a de la calomnie. Vous leur faites du bien et par derrière, ils vous font du mal. Dites-moi, est-ce que ça n'existe pas? Il y en a beaucoup qui ont cette façon de vivre, même parmi les chrétiens. Tout le temps en train de rouspéter, tout le temps en train de murmurer. C'est pourquoi ils se trouvent tout le temps devant des murs. Ils murmurent. Ils sont emmurés. Ils sont emmurés, littéralement, puisqu'il y a un double mur. Murmure. Ils sont emmurés. Ils rouspètent tout le temps. Vous leur faites du bien. Ils reçoivent le bien et, comme récompense, encore pas satisfait. Tu aurais pu faire mieux, tu sais. C'est pas très spirituel comme tu as agi. Si tu étais plus consacré, eh bien, tu aurais fait autrement. Ils vous font la leçon, comment tu le marchais. C'est le seul merci que vous avez. Incroyable. Mais vrai. Incroyable. Mais comment? Mais au moins, merci pour ce que tu reçois. Non, c'est pas encore assez. Un vrai style de vie de brigand et de voleur. Il murmure constamment. Rappelez-vous d'une chose.
le péché qui a empêché toute une nation d'entrer dans le pays de la promesse, c'était quoi?
Le murmure.
S'il y a un péché qui vous empêche d'entrer dans la terre promise, dans la vie abondante, dans la bénédiction, c'est le murmure. Et j'ai pas peur de dire que des millions ont cette maladie. Et à cause de cela, ils n'entrent pas dans la bénédiction. Dieu les bénissait, et ils n'étaient pas encore contents. Alors il y a des fois, ils se rebellaient contre Dieu. Mais à un moment donné, ils n'osaient même plus se rebeller contre Dieu, ils se rebellaient contre Moïse. Alors on n'a pas le courage de se rebeller contre Dieu, de murmurer contre Dieu. Mais on murmure contre les uns ou contre les autres. C'est exactement comme si on murmurait contre Dieu, n'est-ce pas vrai? Pourquoi c'est un style de vie que nous devons abandonner, qui ne nous conduit pas à la vie abondante? Voyons maintenant ce quatrième personnage, le quatrième style de vie qui nous ouvre les fleuves et les portes de la bénédiction et de la vie abondante, le bon berger. Alors comment est-ce qu'il vit le bon berger? Il y a un beau verset dans les Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Avec le verbe donner et recevoir. Allez-y, vous le savez mieux que moi. Acte 20, verset 35. Exactement. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous ne trouvons pas ce verset dans les évangiles, mais c'est l'apôtre Paul lui-même qui le dit. Il dit, dans Acte 20, 31, il faut se souvenir des faibles, soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Apparemment, on ne les a pas, ces paroles, dans les évangiles. Mais tout ce que Jésus a dit confirme cette merveilleuse parole. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà donc le style de la vie abondante. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je le répète, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas recevoir. Il est toujours bon de recevoir. Nous avons toujours besoin des uns des autres. Mais à un moment donné, notre façon de vivre change. Nous ne vivons plus pour recevoir, mais nous vivons pour donner. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Certains lisent ce verset, il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Beaucoup de chrétiens ont toujours lu ce verset comme cela. Il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Et je vous dis franchement, pas mal de temps, je l'ai lu comme ça aussi. Et parfois, j'ai aussi des lunettes qui voient pas bien. Et je lis le verset comme cela. Sam, il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Et quand je lis comme cela, ma joie disparaît instantanément. Poup, il y a comme quelque chose qui disparaît. Mais le Seigneur dit quand même qu'il y a de la joie à recevoir. Mais il y a plus de joie à donner. Il y a plus de joie. Et comment donner? Et je vais terminer par cela. Comment donner? Puisqu'il y a plus de joie à donner. Comment expérimenter cette vie abondante? Comment donner? Comment Jésus donnait? Il y a 5 façons de donner. Premièrement, je donne ici, il donne admirablement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Savez-vous que quand il est dit, je suis le bon berger, le mot bon dans le texte grec a une signification particulière. Le mot bon veut dire admirable. Autrement dit, Jésus dit, je suis le berger admirable. Je trouve ça formidable. Avez-vous remarqué aussi dans Ésaïe, concernant Jésus, il est dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel, prince de la paix. Mais on l'appellera admirable. Et l'ange qui s'adresse à Manoac, qui lui demandait, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? L'ange de l'Éternel répond, pourquoi me demandes-tu mon nom? Mon nom n'est-il pas merveilleux? Alléluia! Autrement dit, quand Jésus donne, il donne d'une manière admirable, d'une manière merveilleuse. Car Jésus, dans tout ce qu'il fait, il est admirable. Et d'ailleurs, le mot grâce, car nous sommes sauvés par grâce. Que la grâce et la paix vous soient données. Savez-vous ce que signifie le mot grâce? Pour beaucoup d'entre nous, nous pensons à un don immérité. C'est vrai. Mais dans le mot grâce, il y a beaucoup plus que cela. Dans le mot grâce, il y a la pensée de beauté, de joie, de splendeur. Autrement dit, quand nous recevons la grâce de Dieu, il y a une beauté qui se manifeste. La beauté de la communion avec Dieu. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu devient plus beau. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous sommes sauvés par grâce. Dans la grâce, il y a quelque chose d'attrayant, de charmant. Et la vie abondante est une vie qui attire les autres. C'est une vie qui est attrayante, qui fait envie. Mais à voir certains, on n'a pas envie, on perd toute envie. À voir certains chrétiens, on n'a même pas envie de devenir chrétien. Et combien de fois nous avons entendu cette expression ? Si c'est pour devenir comme lui ou comme elle, eh bien, au revoir messieurs, dames, merci. Je n'en veux pas. C'est triste, mais c'est vrai, n'est-ce pas vrai ? Ça devrait nous faire pleurer. Si c'est pour être tel comme telle personne, qui fait toujours la tête, qui boude tout le temps, et chaque fois qu'elle dit quelque chose, c'est toujours pour critiquer, pour murmurer. Je vous assure, franchement, j'évite parfois la compagnie de certaines personnes et de certains chrétiens. Je vous le dis franchement. Parce que je sais qu'en leur compagnie, mon esprit est contaminé. Il y a toujours du négatif. Toujours quelque chose, un peu de sous-entendu. Ou alors elle se vante elle-même, à peine en contact avec elle. Elle ne parle que d'elle-même. Ou alors il y a un esprit critique, un esprit méchant, rancunier. Ah, vous avez, oui, tel frère, il y a 40 ans, il m'a dit quelque chose qui n'était pas beau. Et depuis 40 ans, ils n'ont pas pu avaler la pilule encore. Depuis 40 ans, l'amertume est là. 40 ans, je n'exagère pas. C'est toujours là, toujours là. La vie chrétienne est loin d'être admirable, est loin d'être attrayante. La vie abondante est une vie qui attire, qui fait du bien et qui donne envie aux autres. Alléluia. Combien nous devons comprendre cela? C'est pourquoi quand Jésus disait « Je suis le berger admirable », on croyait en lui. Et la foule le suivait parce que c'était vrai. On voyait en lui quelque chose de merveilleux. La preuve que c'était merveilleux, c'est que les enfants suivaient Jésus. Les enfants, vous ne pouvez pas les tromper. Les enfants, ils ont comme un instinct en eux. Et ils savent tout de suite quand ils sont aimés par quelqu'un. Quand quelqu'un a l'esprit pur et vrai, un enfant est attiré, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi il est dit que les enfants allaient après Jésus. Il les prenait dans ses bras, il les bénissait. Oh, il y avait quelque chose de beau en Jésus. Jésus n'était pas seulement beau physiquement. Moi, je crois personnellement qu'il était et qu'il est le plus beau des fils de l'homme, physiquement. Amen. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Alléluia.
Oui.
Il était le plus beau. Pourquoi? Parce que le péché ne l'a pas souillé. Car le péché déforme physiquement quelqu'un. Et il y a combien de témoignages comme cela? De jeunes gens, de jeunes filles. Dans leur adolescence, il y avait cette pureté, cette beauté. Mais au bout de quelques années, quand ces jeunes se sont vautrés dans le péché, dans la souillure, cette beauté a disparu, il n'y a plus rien du tout. Le péché dégrade quelqu'un. Le péché déforme quelqu'un. Et comme Jésus n'a pas péché, il était sans péché, je crois qu'il était le plus beau des fils de l'homme. Rien que le voir est un rassasiement de joie. Amen. Alléluia. Oh, je voudrais bien le voir maintenant. Je voudrais bien le regarder, le contempler. Il y a des délices dans sa présence, n'est-ce pas vrai? Mais Jésus n'était pas seulement beau physiquement, il était beau aussi moralement. Il y avait quelque chose de merveilleux, d'attrayant en lui. On se sentait bien à sa présence. Même les pécheurs se sentaient bien dans sa présence. Et pourtant, il leur marchait pas les beaux. Et pourtant, il les aimait. Ah oui, parce qu'il y avait quelque chose de merveilleux en lui. Il haïssait le péché, mais il aimait le pécheur. Et c'est ce que les gens ressentaient à son égard. Tandis que nous, quand on voit un pécheur, on l'envoie tout promener. Pécheur, péché, tout, ouais. Ah, t'as commis tel péché, t'as fait ceci, cela, allez, hop, ouais, je disparais, loin de ma face. Pécheur, péché, on met tout dans le même sac. C'est le péché qu'il faut rejeter, mais le pécheur, il faut l'aimer. Et voilà ce qui était beau en Jésus. Il pouvait dire les paroles les plus dures aux pécheurs, mais elles étaient acceptées parce qu'ils se sentaient aimés quand même. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous direz les paroles les plus dures à quelqu'un. les plus sévères à quelqu'un, si cette personne se sent aimée par vous, si elle ne se sent pas rejetée, vous pourrez dire tout ce que vous voulez à cette personne. Parce qu'elle sait que vous l'aimez, et que c'est pour son bien, que ce n'est pas dans un esprit de jugement, de condamnation. Vous pouvez dire beaucoup de choses.
Il donnait admirablement. Alléluia.
Il donnait, deuxièmement, il donnait gratuitement. Gratuitement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Jésus, en donnant, n'a pas cherché à recevoir quoi que ce soit. Il l'a donné, il s'est donné par pur amour pour nous. Il n'y avait aucun marchandage dans ce qu'il a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur, il l'a donné gratuitement. Il n'a rien attendu en retour, rien, 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 rien. Le don qui nous coûte le plus, c'est le don que nous offrons gratuitement. Le don qui est le plus cher, c'est celui que nous offrons gratuitement. Mais combien c'est difficile de donner gratuitement. On attend toujours un petit merci, n'est-ce pas vrai?
Quand même, il n'est pas poli.
Au moins un merci. Pas poli ce que tu fais. Au moins un merci. Ah, alors tu ne donnes pas gratuitement. T'es un petit commerçant. Tu feras un bon commerçant, mais tu fais un mauvais chrétien. Au moins un merci. Je ne demande pas beaucoup. Ah oui, mais ce que tu demandes, c'est déjà trop. C'est de trop, c'est de trop, c'est de trop! Parce que ce n'est plus l'Esprit du Christ. Tu demandes quelque chose, la moindre chose, un centime, une paille, tu demandes, c'est fini, c'est plus un don. C'est plus un don! C'est un marchandage. N'est-ce pas vrai? Il donne gratuitement. Et je vous assure, ça coûte de donner gratuitement. Parce que quand on fait quelque chose, on veut toujours qu'il y ait un écho, n'est-ce pas vrai? Et s'il n'y a pas l'écho, on se décourage. On se décourage en disant, à quoi bon? J'ai fait tout cela, il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas de merci. Il n'y a pas de réaction. À quoi bon? À quoi bon? Et nous nous arrêtons. Et c'est pourquoi beaucoup s'arrêtent. Et beaucoup sont arrêtés. Parce qu'ils ne donnent pas gratuitement. Si tu veux, et si je veux aller jusqu'au bout dans ma vie chrétienne, et si je veux que le fleuve de la vie abondante coule jusqu'au bout, alors, jusqu'au bout, je dois donner gratuitement. Je ne dois rien attendre de qui que ce soit. Dieu ne nous laissera pas tomber. Laissez-moi vous dire ceci aussi. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Mais vous ne devez rien attendre de qui que ce soit. Dieu seul est votre source. Et vous verrez qu'il est fidèle. Mais il veut vous apprendre et m'apprendre à donner comme lui. Comme lui. Il nous a donné un exemple afin que nous suivions ses traces. Il donnait gratuitement. Troisièmement, il donnait volontairement. Nous avons lu tout à l'heure, « Personne ne me l'ôte, la vie, mais je la donne de moi-même. » Il y a là une autre qualité de la vie abondante. Donc, c'est une vie, c'est donner volontairement. Il n'y a pas eu la moindre pression du Père sur son Fils. Car s'il y avait eu la moindre pression du Père sur son Fils, alors son don aurait été inutile aussi. Car ce n'aurait plus été un don. Il aurait été contraint de faire quelque chose. Et nous, bien souvent, nous faisons quelque chose par contrainte, n'est-ce pas vrai? Mon papa m'a dit ça. Ma maman m'a dit ça. Je fais parce qu'on me l'a dit. Je fais aussi pour faire plaisir au papa, à la maman. Je fais pour faire plaisir à mon frère, à ma sœur, à mon pasteur. Je le fais pour faire plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que s'il n'était pas là, dans le fond de votre cœur, vous préféreriez ne rien faire. Mais vous le faites parce qu'on vous l'a demandé. Mais finalement, vous préféreriez ne rien faire. C'est là, c'est ça que ça veut dire. Alors il n'y a pas le don volontaire. Ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est forcé, c'est imposé. Et tout ce qui est imposé et forcé n'a aucune valeur devant Dieu, n'est-ce pas vrai? Je me demande ce qui va se passer au ciel quand le Seigneur fera un peu tous les comptes. Ce qui va rester là-haut et ce qui aura de la valeur, c'est ce que nous aurons fait volontairement pour lui. Et non pas en faisant la tête. Seigneur, je me demande ce qui va rester de moi. Il donnait volontairement. Oh, combien cela est important. Seigneur, je fais ceci de tout mon cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, sans aucune contrainte. Parce que je t'aime, Seigneur. Parce que je t'aime. C'est le débordement de l'amour. Personne ne monte ma vie. Je la donne de moi-même. De moi-même. De moi-même. Combien nous avons besoin d'être inspirés par cela. C'est le secret de la vie abondante. Et ensuite, il est dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il donnait joyeusement. Alléluia. Ça aussi, c'est important. Quand on fait quelque chose, il faut le faire avec joie. Servez l'Éternel avec joie, avec joie, avec joie. Faisons-le de tout notre cœur. Et quand le cœur y est, la joie y est aussi. Ceci est important. Et c'est une joie céleste. Recevoir, c'est la joie humaine. Donner, c'est la joie divine. Recevoir, c'est humain. Donner, c'est divin. Il donnait joyeusement. Alléluia. Ne donnons pas comme si on regrettait de le faire. Et en le faisant, l'autre, alors, il dit, « Ah bon, c'est comme ça que tu fais ? Reprends ce que tu fais, s'il te plaît. Reprends-le, reprends-le. Rentre, allez, je n'en veux pas !» On décourage même les gens. Parce que nous, nous ne le donnons pas de notre cœur, l'autre ne se réjouit pas de tout son cœur. C'est ce qui vient de notre cœur qui touche le cœur des autres. Et ça, ça se voit, n'est-ce pas vrai? Vous n'avez pas besoin de faire discours aux gens. Je n'ai pas besoin de vous faire discours aussi quand ça vient du cœur. Et vous aussi, vous n'avez pas besoin de me faire des discours. Je le vois tout de suite quand ça vient du cœur. Et quand ça vient du cœur, c'est un prix inestimable. Amen. Et la moindre petite chose qui vient du cœur est inestimable et produit une joie inestimable. Le cœur, mon fils, donne-moi ton cœur, le cœur. Et je termine. Cinquièmement, il donnait, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, il donnait abondamment. Alléluia. La vie est la vie en abondance. Dieu veut nous donner en abondance si nous voulons être en bénédiction aux autres. En abondance, il veut le faire. Ce n'est pas une vie de luxe, il y a une grande différence entre le luxe et l'abondance. L'abondance, c'est dire, Seigneur, tout ce que tu me donneras, eh bien, je veux que ce soit en bénédiction pour les autres. Pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu, et je termine, a béni Abraham d'une manière particulière? Il lui a dit, Abraham, je te bénirai et tu seras en bénédiction au peuple de la terre. Dieu le bénissait pour être en bénédiction. Dieu nous donne en vue de donner. Et si nous sommes dans cet esprit-là, nous aurons toujours quelque chose à donner. Amen. Si tu n'as plus rien à donner, c'est que tu as cessé de vouloir donner. C'est que tu ne veux plus donner. Mais si tu veux donner, Dieu te donnera encore. Et tu recevras, au-delà même de ce que tu peux recevoir. Alléluia. Il donnait abondamment. Oui, c'est la volonté du Seigneur. Qu'on ne vivote pas seulement, mais que notre vie soit comme une source qui rafraîchit les autres, comme un fleuve qui inonde les autres de sa grâce. C'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et produise en nous un nouveau style de vie, du bon berger. Quatre styles de vie, un seul est bon. Choisissons le bon et donnons gloire au Seigneur. Il revient bientôt. Il nous demandera des comptes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et des fleuves d'eau vive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cela est possible pour toi. Oui, pour toi.
pour toi, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Seigneur Jésus, nous sommes devant ta face ce soir. Nous te louons pour les promesses que tu nous donnes. Nous te louons aussi pour l'exemple que tu nous as donné. Nous te louons aussi pour la vie que tu nous as donnée. Car sans ta vie, sans ton esprit, nous ne pouvons pas suivre ton exemple. Mais tu nous as donné ton esprit afin de vivre. Et tu veux aussi nous remplir de ton esprit, nous baptiser dans le Saint-Esprit pour vivre une vie abondante. Seigneur, tu connais les aspirations de notre cœur. Et tu as dit à celui qui a soif, je donnerai. Je donnerai. Tu donnes toujours à boire à celui qui a soif. Merci Seigneur, tu exauces nos prières. Prends nos vies ce soir. Enlève, ôte de nous ce style de vie de l'étranger, du mercenaire, du brigand. Et que l'esprit du bon berger s'épanouisse en nous. Et que nous puissions grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.
Jésus-Christ est Seigneur et le Saint-Esprit. Il est sorti du tombeau, il est